Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La musique, c'est la prière, c'est la foi, c'est l'amitié, c'est l'association par excellence, écrivait George Sand à Franz Liszt. George Sand, qui, petite fille, jouait du grillage. George Sand, à l'écoute des sons, des bruits de la nature et de ses contemporains musiciens. George Sand et les voix de ses personnages, George Sand chantant le jour et chantant, en rêve, la nuit. Euphonia, première diffusion sur France Culture le 18 mai 1988.
Euphonia.
Programme musical, les écrivains français romantiques et la musique, par Rémy Stricker. Aujourd'hui, George Sand, avec la participation de Jeanne-Martine Vacher.
Après Balzac et après Victor Hugo hier, voici donc George Sand. Et comment avez-vous fait, Jeanne-Martine Vacher, pour vous repérer au milieu des innombrables notations musicales de Sand et que tout cela tienne en une heure?
Écoutez, je vois que vous me précisez la difficulté de ma tâche, parce que c'est vrai que ça a été très très difficile. Parce que George Sand, la musique est absolument partout dans sa vie, du début de sa vie à la fin de sa vie. Alors j'ai pris, moi, une façon de tracer ce parcours en prenant au fond les moments clés, les moments où il va naître quelque chose dans sa vie et qui va l'amener et à la musique et à la littérature. Bien sûr. C'était une façon, il y en avait plein d'autres, il y en avait 50 millions d'autres. Moi, j'ai préféré prendre celle-ci. Alors, pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce que il me semble que chez Sand, ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà, tout est donné dans l'enfance, vraiment. Tous les éléments liés à son rapport à la musique, on les a dans l'enfance. Et ensuite, on va voir que ça va être ses rencontres qui vont donner au fond les deux axes de ses rapports à la musique, c'est-à-dire le premier, l'émotionnel, l'image, le fantastique, et le deuxième qui est un rapport plus pensé, plus philosophique. Alors, tout de suite, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, évidemment, votre semaine le prouve, Rémy, les 19e et la musique et partout dans la littérature. Alors, qu'est-ce que George Sand aurait, elle, de peut-être un peu particulier? J'aurais envie de dire en plus, moi. C'est de dire qu'au fond, chacun s'est intéressé un petit peu, peut-être, ou a une passion pour un aspect de la musique. Qui l'harmonie, qui la musique savante, qui l'opéra. George Sand, il me semble qu'elle, elle a tout entendu, tout écouté et surtout tout utilisé. Et ça, je crois que c'est vraiment ce que je voudrais essayer de montrer dans cette heure. Alors, tout de suite, pour commencer, il me semble que je disais tout à l'heure que dans l'enfance, tout est déjà donné. Et je dirais même que c'est avant l'enfance. C'est-à-dire que très brièvement, je voudrais juste comme ça vous dire un petit peu quelle est son ascendance et voir à quel point déjà, dans cette ascendance-là, il y a la musique partout. Alors, on commence par cette trisaïeule Aurore de Königsmarck. Là, on est du côté de son père, qui va être musicienne, luthiste, qui va jouer de la basse de viol, du clavecin, qui va chanter. Elle était suédoise, c'est une comtesse suédoise, on l'appelait le rossignol de Suède. Et puis, elle va composer et elle va être un grand mécène. Alors, cette Aurore de Königsmarck, elle a un fils, Maurice, qui va devenir un important personnage militaire et qui va, je vois que vous hochez de la tête,
Maréchal de Saxe.
Oui, beaucoup écrire sur la marche militaire et la fonction de la musique par rapport aux soldats et à son intériorité. Alors ce Maurice, bon, il lui arrive plein d'aventures, il finit par servir sous Louis XV et donc il arrive en France. Il prend une maîtresse française qui s'appelle Marie Rintot, qui va installer dans ses meubles avec sa sœur Geneviève, et ces dames vont devenir les demoiselles Verrières, dont on dit, mais ça c'est pas très sûr, qu'elles étaient dames de l'opéra. Là encore, on retrouve la musique. De cette union va naître un enfant, Marie-Aurore, qui va être la grand-mère dont on va voir l'importance qu'elle a eue, qui, elle, chantait également, chantait dans le devin de village de Rousseau, qu'elle va rencontrer, qui va être aussi un personnage important dans la vie de George Sand, et puis qui, plus tard, a joué beaucoup au piano tous les grands musiciens italiens et allemands du 18e. Alors, elle-même, elle va avoir une vie amoureuse, cette Marie-Aurore, et elle va devenir la maîtresse de Dupin de Franqueuil. Dupin, voilà, on est tout près de Georges, de qui elle va avoir un fils, Maurice, qui lui-même va être violoniste. Toute sa vie, il va la passer avec son violon, qui lui va rencontrer... Alors là, on change complètement d'atmosphère, on n'est plus dans cette lignée aristocratique, même si elle est un petit peu illégitime, il faut bien le reconnaître.
Avec quelques demoiselles de l'opéra.
Oui, absolument. Et il va donc rencontrer Sophie Victoire Antoinette de Laborde, qui a 30 ans, qui est danseuse et qui est la mère de George Sand. George Sand, donc, il naît d'une danseuse, pendant une fête que sa tante donne pour fêter ses fiançailles. Et alors, la mère est un peu fatiguée et se retire pendant un quadrille. Et naît la petite George Sand le 1er juillet 1804. Et sa tante dit « Elle est née de musique et dans la rose, elle aura du bonheur ».
Un souvenir qui date de mes 4 premières années est celui de ma première émotion musicale. Ma mère avait été voir quelqu'un dans un village près de Paris, je ne sais lequel. Nous passâmes là une partie de la journée, mais je ne fis attention à rien, tant j'étais préoccupée du son d'un flageolet qui joua tout le temps une foule d'airs qui me parurent admirables. Le son partait d'une des mansardes les plus élevées, et même d'assez loin, car ma mère, à qui je devais ce que j'étais, l'entendait à peine. Pour moi, dont Louis était apparemment plus fine et plus sensible à cette époque, je ne perdais pas une seule modulation de ce petit instrument, si aigu de près, si doux à distance, et j'en étais charmée. Il me semblait l'entendre dans un rêve. Le ciel était pur et d'un bleu étincelant, et ses délicates mélodies semblaient planer sur les toits et se perdre dans le ciel même. J'éprouvais d'indicibles jouissances musicales, et j'étais véritablement en extase devant cette fenêtre où, pour la première fois, je comprenais vaguement l'harmonie des choses extérieures, mon âme étant également ravie par la musique et par la beauté du ciel.
Cet extrait de Histoire de ma vie que Edith Gage, qui prête pour nous en direct sa voix à George Sand, vient de nous lire, dit assez bien un des premiers aspects du rapport à la musique de George Sand, qui est un aspect, à mon avis, qui lui est très particulier.
Physique, presque.
Qui lui est physique et qui est cette espèce. Alors, d'une part, ce qu'il faut dire, c'est que cet aspect-là, elle va le développer toute sa vie et toute sa vie dans ses écrits. C'est-à-dire, c'est un rapport au son pour lui-même. Et là, en l'occurrence, il y a ce mélange de la nature, de la musique, et cette, la découverte de la nature, ce ciel qui se mélange à la musique et qui fait sa jouissance artistique, c'est très caractéristique d'elle. Et c'est vrai qu'elle a aimé le son pour lui-même, qu'elle l'a mis dans tous ses romans, dans toute son écriture, et qu'il y a cette petite anecdote que j'aime beaucoup, qu'elle raconte dans Histoire de ma vie quand elle avait 4 ans. où elle explique qu'elle adorait le bourdonnement des mouches, le bruit du vent. Et puis, il y avait une chose qu'elle aimait particulièrement. Et on pourrait presque dire qu'en un sens, elle avait, à sa façon, très très tôt, inventé un peu la musique concrète. C'est qu'elle avait dans sa chambre une porte d'alcôve avec des petites barres de laiton. Et alors, elle explique qu'elle ne pouvait pas s'endormir, elle avait à peu près 4 ans, sans faire une espèce de musique céleste à partir de ces petites barres. Et quand sa mère entendait ça, elle disait « Tiens, voilà Aurore qui joue du grillage ». C'est ce qui est joli, mais qui dit bien à quel point tout était son pour elle. Il y avait aussi le son de la pompe à feu qui la terrifiait. Il y avait donc ce mélange, que je répète, on trouve vraiment dans toute son écriture. Et puis, il y avait un autre son de la nature qui a marqué sa vie et qui vraiment lui vient de sa mère. Et je crois que tout cet aspect-là lui vient de sa mère. On verra le partage entre cette mère et cette grand-mère, entre cette ascendance aristocratique et puis, d'un autre côté, quelque chose de plus roturier. C'est donc ce qui vient de sa mère qui est fondamental, c'est le chant des oiseaux. Alors, il faut se rappeler que cette Sophie Laborde, elle était fille d'un oiseleur qui a dû, peut-on supposer, lui apprendre complètement ce chant des oiseaux. Et George Sand les a attirés, elle a toujours fasciné ses amis parce qu'elle savait appeler les oiseaux, elle savait reconnaître les chants. Et dans toute son écriture, elle a parlé de ce chant des oiseaux.
On vient d'ouvrir l'écluse de la rivière. Un bruit de cascade qui me rappelle la continuelle harmonie des Alpes s'élève dans le silence. 1000 voix d'oiseaux s'éveillent à leur tour. Voici la cadence voluptueuse du rossignol. Là, dans le buisson, le trille moqueur de la fauvette. Là-haut, dans les airs, l'hymne de l'alouette ravie qui monte avec le soleil. L'astre magnifique boit les vapeurs de la vallée et plonge son rayon dans la rivière, dont il écarte le voile brumeux. Le voilà qui s'empare de moi, de ma tête humide, de mon papier. Il me semble que j'écris sur une tablette de métal ardent. Tout s'embrase, tout chante. Les coqs s'éveillent mutuellement et s'appellent d'une chaumière à l'autre. La cloche de la ville sonne l'Angélus.
Thank you.
Alors, donc, on a vu ce premier rapport qui va marquer Georges Sand de la musique, c'est ce rapport au son, à la nature et au bruit de la nature. La deuxième chose qui me semble importante, elle intervient très vite. Elle intervient quand elle a 4 ans, c'est en 1808, on est en pleine campagne d'Espagne. Elle suit son père, donc elle va partir en Espagne avec sa mère, élément important, parce que là, on est encore du côté de la mer. Et elle va traverser les Pyrénées, s'installer à Madrid. Et là, elle va découvrir une chose qui va être essentielle aussi ensuite dans sa vie, c'est le folklore. C'est la chanson populaire qu'elle va toujours d'ailleurs garder liée en l'associant à un souvenir de paysage, en l'associant aussi à ce personnage de sa mère avec qui elle a un rapport extrêmement difficile. On va le retrouver par exemple ce goût pour la chanson espagnole parce qu'elle découvre le fandango, le boléro. On va le retrouver beaucoup plus tard dans sa vie quand elle va avoir cette grande amitié avec Pauline Viardot, qui était bon, la fille de Garcia, donc dans une lignée espagnole, et qui va lui chanter des chansons espagnoles. Donc elle ne va jamais perdre ça. Et dans sa littérature, on le retrouve par exemple avec le petit page Ramiret, qui est un personnage d'un texte qu'elle écrit en 1832, Le Toste, qui berce sa maîtresse andalouse, évidemment, Dona Juana de Merilla, avec sa guitare, avec ses chansons populaires. Il y a aussi ce personnage dans Ma sœur Jeanne, qui est un texte alors là, beaucoup plus tardif, puisqu'il est de 1874, où il y a un très beau personnage de danseuse, peut-être est-ce une réminiscence de sa mère, qui s'appelle donc Manuela Pérez. Donc il y a cet aspect du folklore qui vient très très vite, et qu'elle va, parce qu'elle a beaucoup œuvré pour la chanson folklorique, elle a même fait une véritable reconstitution plus tard, et dans son œuvre, elle a travaillé sur des partitions, elle a noté des choses qu'elle entendait. Donc ça c'est vraiment un des aspects fondamentaux. Alors, je parlais de sa mère, il faut quand même en arriver à parler de cette Madame Dupin, sa grand-mère, qui elle donc est de la lignée aristocratique, et qui va lui apporter, qui donc elle est aussi la détentrice d'une culture, on l'a vu, elle avait un salon, elle a rencontré Rousseau, elle a beaucoup parlé, elle a beaucoup échangé avec beaucoup de créateurs de son époque. Je ne sais pas si on disait créateur à cette époque-là, d'ailleurs on ne devait
sûrement pas. Sûrement pas, mais
je ne sais rien. Oui. Et par cette grand-mère, alors elle va apprendre la musique, c'est-à-dire qu'elle va apprendre le piano, elle le pratiquait relativement bien, elle avait une bonne maîtrise du solfège, ce qui est important parce que, vous parlez de Nerval, je crois, il était très jaloux de ça, parce que lui, il était capable d'entendre des choses, mais il ne pouvait pas les retranscrire comme elle, et en faire une analyse musicale, ce qu'elle, elle était capable de faire. Et ça, c'est véritablement à sa grand-mère qu'elle le doit, et par elle qu'elle va le vivre.
Ma grand-mère commença à m'enseigner la musique. Malgré ses doigts à moitié paralysés et sa voix cassée, elle chantait encore admirablement. Et les deux ou trois accords qu'elle pouvait faire pour s'accompagner étaient d'une harmonie si heureuse et si large que quand elle s'enfermait dans sa chambre pour relire quelque vieil opéra à la dérobée et qu'elle me permettait de rester auprès d'elle, j'étais dans une véritable extase. Je m'asseyais par terre sous le vieux clavecin, où Brillant, son chien favori, me permettait de partager un coin de tapis. Et j'aurais passé là ma vie entière, tant cette voix chevrotante et le son criard de cette épinette me charmaient. C'est qu'en dépit des infirmités de cette voix et de cet instrument, c'était de la belle musique, admirablement comprise et sentie. J'ai bien entendu chanter depuis, et avec des moyens magnifiques. Mais si j'ai entendu quelque chose de plus, je puis dire que ça n'a jamais été quelque chose de mieux. Elle avait su beaucoup de musique des maîtres, et elle avait connu Gluck et Piccini, pour lesquels elle était restée impartiale, disant que chacun avait son mérite, et qu'il ne fallait pas comparer, mais apprécier les individualités. Elle savait encore par cœur des fragments de Léo, de Haas et de Durante, que je n'ai jamais entendu chanter qu'à elles, et que je ne saurais même désigner, mais que je reconnaîtrais si je les entendais de nouveau. C'étaient des idées simples et grandes, des formes classiques et calmes. Même dans les choses qui avaient été le plus de mode dans sa jeunesse, elle distinguait parfaitement le côté faible et n'aimait pas ce que nous appelons aujourd'hui le rococo. Son goût était pur, sévère et grave.
Vous savez, ce qui me frappe dans tout ça, c'est que, au fond, c'est français. Ces littérateurs français du 19e, quels qu'ils soient, Hugo, Balzac, Stendhal, etc., ils peuvent adorer la musique, ils l'aiment toujours d'une manière un peu intellectuelle, ce qui est bien français. Or, Sand, c'est avant tout la perception de la musique, la perception sensorielle.
Oui, tout à fait. Et je crois que ce texte, il est admirable et il est exemplaire pour cela. Parce qu'il y a une image, moi, que je trouve magnifique dans ce texte. C'est l'image de cette petite fille qui se colle sous ce clavecin. Elle est sous le clavecin. Et qui transforme son corps en une espèce de caisse de résonance. C'est-à-dire que la musique, ça la traverse, ça la pénètre vraiment. Et que ça, c'est une image étonnante, parce que je crois que d'abord, elle va le faire toute sa vie. Elle a eu la chance, cette femme-là, de pouvoir se mettre sous le clavecin de Chopin ou de Liszt ou de piano et de pouvoir respirer comme ça cette musique. Et donc, ça, c'est donc pas une anecdote, je veux dire, c'est vraiment son rapport à la musique intensément. Mais je crois que c'est plus que ça, je crois que c'est profondément son rapport à la vie. Parce que toute sa vie, Sand, elle a absorbé le monde, elle a absorbé les autres, elle s'en est nourrie d'une façon vorace, véritablement. On lui a même reproché, parce qu'on disait qu'elle avait, certains qui ne l'aimaient guère, disaient qu'elle n'avait pas de personnalité au fond, que c'était toujours ce que lui renvoyaient les autres. Et je crois que c'est, moi je trouve qu'il y a une très belle, il y a une beauté fantastique dans cette attitude-là, qu'elle-même d'ailleurs a tout à fait bien senti parce qu'elle a écrit là-dessus.
Il y a des heures où je m'échappe de moi, où je vis dans une plante, où je me sens herbe, oiseau, cime d'arbre, nuages, eau courante, horizon, couleur, forme et sensations changeantes, mobiles, indéfinies. Où je vis enfin dans tout ce qui est le milieu d'un développement, qui est comme une dilatation de mon être. Le monde extérieur a toujours agi sur moi plus que je n'ai pu agir sur lui. Je suis devenu un miroir, d'où mon propre reflet s'est effacé, tant il s'est rempli du reflet des figures et des objets qui s'y confondent.
Voilà, alors je crois que ce texte vraiment dit magnifiquement ce qu'elle était.
C'est une attitude beaucoup plus moderne que romantique, d'ailleurs.
Oui, peut-être dans un certain sens, oui, absolument. Parce que
puisque son moi s'efface, c'est tout de même étonnant quand un romantique dire ça.
Complètement. Et c'est vrai que cette espèce de dilatation du moi va marquer toute sa vie. Alors j'ai eu envie de penser à qu'est-ce qui musicalement pouvait traduire ça. Et pour moi, il y avait une espèce d'association musicale qui s'est faite immédiatement et d'un air que je me prête à imaginer qu'elle a dû aimer, parce que dans ces fêtes musicales qu'il y avait à Nohant quand elle était petite, on écoutait beaucoup Mozart. Et moi, je pensais à ce grand air de Chérubin dans l'acte 1 des Noces, c'est-à-dire des Noces de Figaro, c'est-à-dire peut-être pour moi le plus beau moment de musique et de chant sur l'idée du désir, qui s'appelle quand même Non so pius, non so pius, non so... j'en m'affouille tellement je suis prise par mon truc. Voilà, je ne sais plus ce que je suis ni ce que je fais, parce que je suis le désir, je suis le désir. saisir de tout ce qui est en face et qui me fait palpiter. Et cet air magnifique, j'ai pris une interprétation de Frédérica von Stadt parce que vraiment elle l'interprète, qui finit quand même en beauté en disant « Et si personne ne veut m'entendre parler d'amour, eh bien je parlerai d'amour à moi, tout seul. » Ogni ghiaccio, ogni lana del caro di volori, ogni lana mi fa palpitar, ogni lana mi fa palpitar, ogni lana mi fa palpitar. Sono gli uomini da morte di letto, e si turba mi sa il delitto. Ce rapport au son, ce rapport au folklore, et puis cette entrée dans la musique écrite, la musique de son temps. Alors, il va y avoir une petite pause par rapport à la musique dans sa vie, c'est toutes les années où elle va être au couvent, où là, vraiment, tout est en suspens. Et puis, elle va retrouver cette grand-mère, qui va donc, une fois de plus, être un personnage clé, et elle dit, dans l'histoire de ma vie, « J'ai repris fureur à la musique. » Et je chantais le jour en réalité et la nuit en rêve. La musique avait tout poétisé pour moi. Et là va vraiment exister 10 mois intenses et qui sont très importants pour nous parce qu'on voit apparaître une nouvelle chose. On a vu le sentiment, on a vu la passion. Mais il y a une chose qui va se mêler à la musique à ce moment-là, c'est l'idée de la philosophie. C'est l'idée de la pensée. Parce que dans ces 10 mois où elle est toute seule avec sa grand-mère, il y a la musique qu'elle partage avec elle et il y a le rapport à la lecture parce que cette femme va lui lire à voix haute tous les textes qui vont la marquer, c'est-à-dire Chateaubriand, Condillac, Montesquieu, Bacon, Bossuet, Aristote, Leibniz, Pascal, Montaigne, Rousseau. Alors là, j'ai dit deux noms importants justement par rapport à tout ce qui est du son. Il y a d'abord Rousseau. Rousseau, c'est amusant de noter qu'était quelqu'un qui était quand même capable de faire 2 lieues par jour pour aller écouter un rossignol au printemps. Hein. Et puis Rousseau qui a beaucoup utilisé le vocabulaire musical aussi, qui a beaucoup travaillé et qui, je pense, va être, après George Sand va s'emparer de ça, va se servir de ces images-là, de ces mots-là pour écrire elle-même. Et puis je citais aussi Chateaubriand qui, me semble, a aussi été quelqu'un obsédé par la sensation auditive, qu'il a peut-être noté moins précisément, avec moins d'acuité que ce qu'elle a pu le faire elle-même, peut-être parce qu'elle connaissait mieux la musique. Donc, vraiment, à ce moment-là, il y a cette découverte des gens, des penseurs, qui est mêlée à cette intimité avec sa grand-mère. Bon, sa grand-mère qui meurt et qui va donc la laisser seule. Il faut, si on veut arriver à parler de ce moment où elle va naître à elle-même, où elle va se donner la vie, puisque je disais en tout début que j'avais pris ces moments clés, il faut bon quand même évoquer ce mariage qu'elle va faire en 1822 avec Casimir du Devant. Un mariage très peu heureux, enfin, qui n'est pas l'objet de notre parole aujourd'hui. Mais il est intéressant de voir qu'une de ses dissensions avec cet homme-là, et elles étaient nombreuses, a été son... Lui détestait la musique. Et alors, on a des lettres où elle lui dit « Bon, je joue quand vous n'êtes pas là, parce que je sais que le son du piano vous rend fou. » Donc, c'était... Elle a vécu une contrainte par rapport à la musique extraordinaire pendant toutes ces années de mariage. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle va s'échapper. Elle va finir par s'échapper dans les années 1830, qu'elle va s'échapper en partant à Paris. C'est presque en même temps que la Révolution. Ce qui symboliquement est assez joli. Et ce que je trouve très beau dans la vie de cette femme, c'est qu'au fond, c'est par l'art qu'elle va s'échapper. Et on le sent très très bien à cette période-là. Elle arrive à Paris, il y a une frénésie de musique, de concerts, on découvre Beethoven, l'opéra c'est la Malibran, c'est la Pasta. Elle va courir comme tous ses contemporains d'un concert à un musée, et je dis musée parce que c'est très important, elle va découvrir la peinture, donc c'est une chose qui arrive tardivement, mais qui va être très liée à l'impression musicale. Et c'est à partir de ces émotions-là qu'elle va devenir George Sand.
Je m'en allais mystérieusement, toute seule, dès que le musée était ouvert, et j'y restais jusqu'à ce qu'il fermât. J'étais comme enivrée, comme clouée devant les Titiens, les Tintorets, les Rubens. C'était d'abord l'école flamande qui m'avait saisie par la poésie dans la réalité, et peu à peu j'arrivais à sentir pourquoi l'école italienne était si appréciée. Comme je n'avais personne pour me dire en quoi c'était beau, mon admiration croissante avait tout l'attrait d'une découverte. Et j'étais toute surprise et toute ravie de trouver devant la peinture des jouissances égales à celles que j'avais goûtées dans la musique. L'univers se révélait à moi. Je voyais à la fois dans le présent et dans le passé. Je devenais classique et romantique en même temps, sans savoir ce que signifiait la querelle agitée dans les arts. Je voyais le monde du vrai surgir à travers tous les fantômes de ma fantaisie et toutes les hésitations de mon regard. Il me semblait avoir conquis je ne sais quel trésor d'infini dont j'avais ignoré l'existence. Je n'aurais pu dire quoi. Je ne savais pas de nom pour ce que je sentais se presser dans mon esprit réchauffé et comme dilaté. Mais j'avais la fièvre. Et je m'en revenais du musée, me perdant de rue en rue, ne sachant où j'allais, oubliant de manger, et m'apercevant tout à coup que l'heure était venue d'aller entendre le Freischütz ou Guillaume Tell. J'entrais alors chez un pâtissier, je dînais d'une brioche, me disant avec satisfaction, devant la petite bourse dont on m'avait muni, que la suppression de mon repas me donnait le droit et le moyen d'aller au spectacle.
Cette ouverture du Freischütz que l'on entend, on entre dans le fantastique, cher au romantique et cher à George Sand, et on arrive à un personnage qui va être, je crois, fondamental dans son rapport à l'écriture et dans son rapport à la musique, c'est Hoffmann. Hoffmann, bon, qui a marqué considérablement toute cette période, et particulièrement George Sand. Alors, elle le découvre à peu près en 1828, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore tout à fait pris son envolée. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle a la première traduction d'Hoffmann en France, bien que l'éclosion réelle soit en 1929, où là, véritablement, le Journal des débats, le Mercure de France, la revue musicale lui font une place absolument immense. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce succès d'Hoffmann? Je crois qu'il y a d'une part le goût du fantastique, mêlé à un certain goût de la fantaisie, ça c'est pour l'ensemble des romantiques, je dirais. Et pour George Sand, je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent. Il y a le fait que, au fond, cet homme-là, comme elle, comme toute son enfance, tout ce qu'elle a été, toute sa vie, c'est un rêveur. Elle disait c'est un rêveur éveillé. Je crois qu'il y a déjà ça. Et ce rêveur éveillé, il a un rapport justement où il mélange en permanence le concret, le réel et le fantastique que l'on transforme. Il y a un texte d'elle qui est superbe, où elle est face à un paysage et où elle décrit ce paysage qu'elle voit comme ça, les yeux grands ouverts. Et puis tout d'un coup, elle plisse les yeux. Et puis elle dit, mais c'est merveilleux parce qu'au fond, cette route blanche là que je vois, en plissant mes yeux, je peux en faire un lac immense. Et puis cet arbre que mes yeux plissés distordent, j'en fais autre chose. Et je crois que ce texte-là raconte assez bien ce rapport permanent entre le réel et le réel qu'on transforme. Et je crois que Hoffmann, pour elle, c'est ça. Alors, il y a des choses précises qu'elle trouve chez Hoffmann. Il y a, entre autres, par exemple, les légendes rustiques qu'elle va réutiliser, elle, mais beaucoup plus tardivement dans sa vie, dans les années 55-60. Dans ces légendes, il y a aussi beaucoup d'éléments auditifs. Il y a un autre élément qui me paraît, dont je n'ai pas parlé encore, et qu'on ne développera pas là à cause de mes choix de naissance, mais il est là, il est dans Hoffmann, c'est la voix. La voix qui, pour elle, elle disait, la voix a un fluide, un magnétique, une sorte d'auréole non visible, mais sensible au toucher de l'âme. C'est un beau mélange du corps et de l'esprit, ça. Et elle dit, au fond, cette voix, et ça c'est étonnant dans les textes de George Sand, on va la retrouver tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage où on n'ait pas une description de leur voix. Que ça soit la voix d'Indiana, douce et voilée, que ça soit la voix de Jacques, dans Jacques, du philosophe rustique, sa voix pénétrante qui possède plusieurs belles cordes, que ça soit la voix de Consuelo, que ça soit plus généralement la voix de catégories sociales liées à des paysages encore. On retrouve toujours cette fusion, c'est-à-dire les voix glapissantes des paysans pyrénéens, les éclats sonores des provençaux. Cette voix donc qui va être cette voix qu'elle va aimer, qu'elle va adorer à l'opéra et qu'elle va ensuite approcher, si je puis dire, de façon intime dans sa relation avec Pauline Viardot. Cette voix donc qui est complètement dans la thématique d'Hoffmann, où il y a toujours des voix extraordinaires, des voix avec des timbres rares, et c'est ces voix qui traduisent la haine, l'amour, le désespoir. On le retrouve chez Hoffmann particulièrement par exemple dans Sanctus, où ce personnage de Bettina, qui est une cantatrice, qui ne vit que pour chanter, et qui bien entendu est frappée d'un sort terrible, qui fait que sa voix, chantée uniquement, devient mate, et absolument insupportable, complètement catarrhale, et... Donc, il y a ça dans Hoffmann qui, je crois, est très, très important. Il y a autre chose qui, à mon avis, a dû beaucoup la fasciner, c'est le personnage d'Hoffmann, c'est-à-dire celui qu'elle appelait l'enfant gâté de toutes les muses. Hein. Cet homme qui était à la fois romancier, peintre, botaniste, entomologiste, chimiste et quelque peu sorcier, disait-elle, et qui était, je crois, avant tout musicien. C'est-à-dire que cet homme-là, toutes ses sensations, tous ses sentiments, chez lui, passait par la musique. C'est la musique qui donnait l'explication de cette espèce d'énigme universelle qui était une espèce de façon d'aller vers l'infini qui, je crois, nous dit bien ce premier rapport de Georges Sand à la musique, c'est-à-dire le rapport de l'image, de la sensation, du sentiment. Et je crois que où il l'a beaucoup influencé, c'est aussi dans sa technique d'écriture, dans la façon justement dont il parlait, dont il racontait la musique, dans ses thèmes bien entendu, puisqu'elle devait retrouver un peu de son enfance, le maître de musique, les souffrances musicales du maître de chapelle Kreisler, qu'on retrouvera assez rapidement. Et c'est quand même drôle de voir que le premier texte qu'elle a écrit, en 1830, qui est un texte qui est resté inédit jusqu'en 1931, donc c'est vraiment très 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 récent là, la connaissance que nous en avons, s'appelle « Histoire d'un rêveur ». Le personnage s'appelle Amédée, Amédée qui est le troisième prénom que s'était donné Hoffmann, en hommage à Mozart, comme quoi tout est bien là. Et alors qu'est-ce qu'il raconte ce texte? Eh bien il raconte justement une espèce d'analyse extraordinaire du phénomène musical autour d'une voix. Alors cet Amédée, je résiste pas à vous le raconter brièvement, cet Amédée, il décide d'aller voir un jour un lever de soleil sur l'Etna. Alors il s'approche du cratère, et qu'est-ce qui se passe? Arrivé devant ce cratère, il entend une voix qui prend absolument tout l'espace, et qui est une voix très intéressante, parce que c'est une voix qui est trop suave, trop caressante pour s'exhaler de la poitrine d'un homme, mais qui est trop pleine, trop grave, trop sonore pour le gosier d'une femme. C'est drôle sous la plume de Georges Sand, ça. Et elle offre donc un résumé curieux des plus harmonieuses facultés de chaque sexe, à la fois basse, contralte, ténor. Alors, il est complètement fasciné par cette voix et il se rend compte tout d'un coup que face à lui, il y a un jeune homme drapé dans un ample manteau rouge, que ce jeune homme saute sur son cheval, l'oblige donc à partir, il faut une espèce d'envolée absolument extraordinaire, il se retrouve dans le fond du cratère, absolument et totalement indemne. À ce moment-là, il y a un déchaînement extraordinaire du volcan, un bruit, un tumulte, les roulements de la foudre, les rugissements de la montagne qui est ébranlé jusqu'à ses fondements, une sauvage harmonie, et alors il y a le mot temporal et temporal qui tombe en pluie de son grave, et, aux surprises, Amédée, qui est complètement pénétré jusqu'aux os par ses flammes, se sent soudain très doucement enlacé. Et son compagnon au manteau rouge se transforme en une ravissante jeune femme qui l'attire vers la bouche, non pas la sienne, mais celle du volcan. Et là, notre Amédée se réveille. Alors, il y a une chose que je pensais en regardant le résumé de ce texte où vraiment... tout ce qui est sur la... C'est uniquement sur la voix, ce premier texte. Ça m'a fait penser que ce texte est écrit en 1830 et qu'au fond, en 1828, il y a eu la création d'un opéra de M. Aubert, qui était la Muette de Portici, où il y avait un très beau volcan aussi, qui était l'explosion du Vésuve associée à l'insurrection des paysans. Alors je me suis dit que peut-être Georges Sand, elle avait sûrement vu la Muette de Portici. Et si je fais le lien avec la Muette de Portici, c'est parce que ça va nous amener... à un autre aspect qui est fondamental, c'est que la Muette de Portici, quand il a été donné en 1830, la Muette de Portici qui est un opéra dont parlait beaucoup Wagner, on a pensé qu'il avait peut-être influencé l'insurrection des Belges. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit arriver avec l'idée de la musique, l'idée de la pensée, l'idée du social. Et la muette de Portici, qui a été créée par un personnage dont on va parler, un ténor très important, Nourri, qui lui-même va être quelqu'un de complètement dans l'idéologie et dans le social. Et là, vraiment, on arrive donc à ce deuxième aspect de Sand et la musique, c'est-à-dire la philosophie et la pensée sociale.
C'est 10 ans après George Sand, rêvant d'après Hoffmann, un autre rêveur, Schumann, l'écrasé Ariana.
Bon, c'est vrai, quand on parle de Georges Sand et la musique, on attend Chopin. Alors moi, j'ai préféré Liszt plutôt que Chopin, pas par simple goût de la contradiction, ce qui est toujours aussi plaisant, mais parce que je crois que si on trace effectivement les gens qui ont été à un moment de la naissance de quelque chose pour elle, c'est Liszt, bien plus que Chopin. Parce que cette rencontre qui va donc se passer en 34. En 34, elle vient d'écrire L'Elia, qui est un roman extraordinaire, peut-être le premier roman où une femme parle d'elle, de ses désirs d'amour et de corps d'ailleurs, reçu de façon un peu scandaleuse. Donc lui, il l'a lu. Et tout de suite, c'est une relation très très forte. Bon, au début, il semble que c'est un petit peu posé pour eux de problème de savoir comment nommer cette relation. Alors, on n'a pas les textes exacts, on n'a plus que les échos lointains de ça. Mais il semblerait quand même qu'il y ait eu entre eux une difficulté à savoir un petit peu. Je vois que vous hochez de la tête, vous pensez...
Oui, parce que je pense au passage du journal de Sand où elle dit « Je m'étais sottement infatué à l'idée que Liszt était amoureux de moi. En réalité, il n'est préoccupé que de la Sainte Vierge à laquelle je ne ressemble pas absolument. »
Ah, je vois que vous avez une version comme ça parce que vous êtes un homme. Parce que moi, j'avais lu d'autres versions où on disait que c'était elle qui l'avait refusé. Donc nous en restaurons là.
Personne n'en sait rien. Ils ont été fascinés l'un par l'autre, vraisemblablement. C'est pas possible autrement, d'ailleurs.
Mais c'est plus que de l'anecdote, parce que ça explique l'importance de cette relation. Alors quand même, à un moment, il décide de mettre un nom sur tout ça, et elle lui dit « Eh bien, soyez mon frère ». Donc voilà, nous sommes là de cette relation. Et pour parler plus sérieusement, ce qu'il va lui apporter, lui, parce qu'il la rencontre à un moment où elle est désespérée, parce que Musset l'a quittée. Elle a des pages, d'ailleurs, complètement bouleversantes sur cette douleur-là, elle ne sait absolument plus où se tourner. Et Liszt arrive, il arrive tout chargé qu'il est de Saint-Simon, et puis après de sa rencontre avec Lamennais. C'est-à-dire, tout d'un coup, il va lui proposer, au fond, de s'ouvrir à autre chose, à une autre dimension, et à une autre conception de sa vie et de son art.
Donc, alors, selon vous, toute la dimension sociale chez Sand a été réveillée par Liszt ?
Ah, je pense qu'il est un personnage complètement...
C'est tout à fait étonnant, ça.
C'est vrai ?
Ouais.
Ça vous étonne ? Moi, je...
Non, ça ne m'étonne pas, parce que je sais que ça hantait Liszt à cette époque, mais
je pense
à l'importance que ça prendra chez Sand, c'est amusant de voir que ça vient d'un musicien.
Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est à partir de ce moment-là, il va se passer 10 ans où elle va vouer sa plume à Sand, et que c'est vrai, peut-être que le fait qu'elle arrive, ça arrive à un moment où elle est très fragile, où elle ne sait plus très bien où elle est important. Et que c'est vrai qu'aussi, il y a cette dimension de cette extraordinaire, bon, qui est très romantique, du sens à donner à sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est, très brièvement, que cette idéologie-là, si on peut l'appeler comme ça. C'est vrai que c'est une façon de mettre l'art comme un culte et non plus comme une distraction de salon. C'est une façon de dire, au fond, qui doit gouverner, qui doit faire avancer la société.
L'artiste.
C'est l'artiste. L'artiste qui est le prophète. Pas tout seul, ne nous réjouissons pas trop. Il y a quand même les savants et les industriels. Alors, les industriels, ça, j'avoue que c'est très contemporain, finalement. Hein. C'est donc une idée pas si récente que ça. Il y a donc ces artistes à la tête de la société, et donc l'idée de l'État des musiciens, d'une espèce de république de la musique. J'emploie volontairement ce mot parce qu'il y a un texte de George Sand où elle a synthétisé parfaitement ce en quoi la musique peut donner l'idée du social.
Le musicien vit d'accord, de sympathie et d'union avec ses élèves et ses exécutants. La musique s'enseigne, se révèle, se répand, se communique. L'harmonie des sons n'exige-t-elle pas celle des volontés et des sentiments ? Quelle superbe république réalise 100 instrumentistes réunis par un même esprit d'ordre et d'amour pour exécuter la symphonie d'un grand maître ? Quand l'âme de Beethoven plane sur ce cœur sacré, quelle fervente prière s'élève vers le Dieu ? Et quand vous unissiez ce printemps dernier, votre magique langage à l'alto d'Uran et à la contrebasse de Bata. Quel cieux impitoyable ne se serait pas ouvert pour laisser monter ce trio sublime. Oui, la musique, c'est la prière, c'est la foi, c'est l'amitié, c'est l'association par excellence.
Voilà, c'est donc l'extrait d'une lettre qu'elle écrit à Franz Liszt.
Absolument.
Et je crois que ça va donc inspirer son œuvre à elle, parce qu'elle va écrire son premier roman républicain en 36, ça s'appelle Simon. Ensuite, en 37, il y a la dernière Aldini. Il y a en 37 les maîtres mosaïstes, où Liszt est très clairement décrit sous le personnage de Valério. D'ailleurs, on le retrouve, lui, il l'amenait dans tous les romans de cette époque. Et si ça a inspiré Georges Sand, ça a aussi inspiré Liszt dans une de ses œuvres, Rémi.
C'est C'est-à-dire le contrebandier ?
Oui, non, je pensais à l'héroïde.
L'héroïde funèbre.
Qu'on va entendre.
Oui, mais ça, l'héroïde funèbre, c'est vraiment la révolution qui a inspiré ça, Alice. C'est-à-dire que lui, il sortait d'une période de retraite, de silence, après la mort de son père. Et comme a dit sa mère, c'est le canon de juillet qui l'a rendu musicien. C'est-à-dire qu'en 1830, tout à coup, Liszt s'est réveillé et qu'il a commencé à écrire une symphonie révolutionnaire qu'il n'a jamais achevée. Et beaucoup plus tard, à Weimar, lorsqu'il a composé ses poèmes symphoniques, il a dit dans la préface de l'Héroïde funèbre qu'il subsistait dans ce poème symphonique des échos de cette symphonie révolutionnaire qu'il avait écrite.
Alors évidemment, quand on évoque George Sand et Liszt, il faut évoquer ce voyage extraordinaire à Chamonix en Suisse, il faut évoquer l'Hôtel de France où ils vont être installés à Paris un moment, il faut évoquer ces trois longs mois à Nohant qui vont être baignés de discussions passionnées où on retrouve toujours leur thématique favorite, l'art et l'imitation de la nature, la virtuosité qui devient une chose un peu douteuse si on n'est plus un artiste de salon, la valeur artistique et musicale des chants populaires dont ils vont beaucoup beaucoup parler, et puis la musique à programme aussi, et la fonction et l'importance de savoir quelle est l'intention du musicien. Elle écrira d'ailleurs un très beau texte à Chopin sur l'idée de comment traduire la pensée, la musique imitative.
Vous savez une chose, c'est que Sand a été la seule à écouter Liszt composer et que dans son journal, elle raconte comment elle l'écoutait composer. C'est le seul contemporain qui parle de Liszt en train d'écrire de la musique.
Alors c'est vrai qu'on peut se dire, comment n'aurait-il pas fait une chose artistique ensemble, ces deux êtres-là ? Eh bien, elle a existé, et on peut finir sur cette belle idée-là, qui est l'histoire de ce contrebandier que donc a écrit Liszt, à partir de Garcia, je crois.
Oui, c'est une histoire qui va totalement à l'inverse de ce qui se passe en musique d'habitude, puisque d'habitude, les musiciens s'inspirent de textes littéraires pour les mettre en musique, et là, c'est tout le contraire. Liszt a entendu Garcia chanter une de ses romances célèbres, Le contrebandier, et il en a fait une paraphrase.
Il l'a fait presque au moment où meurt Malibran, d'ailleurs.
C'est ça, oui, en 1936.
Oui, c'est ça.
Et Sand a entendu la paraphrase de Liszt, et elle a fait sa paraphrase littéraire sur la paraphrase musicale, c'est-à-dire qu'elle a écrit une nouvelle qui s'appelle Le contrebandier, d'après la paraphrase de Liszt.
Et on peut penser que dans cet échange-là, il y a eu aussi toute l'ouverture que Liszt va avoir après, avec cette volonté de lier la littérature et la musique, avec tous ses poèmes symphoniques. Donc, au fond, c'est une belle façon de finir sur ce qu'ils se sont apportés réciproquement l'un et l'autre.
On a dit avec raison que le but de la musique, c'était l'émotion. Aucun autre art ne réveillera d'une manière aussi sublime le sentiment humain dans les entrailles de l'homme. Aucun autre art ne peindra aux yeux de l'âme et les splendeurs de la nature et les délices de la contemplation et le caractère des peuples et le tumulte de leurs passions et les langueurs de leurs souffrances. Le regret, l'espoir, la terreur, le recueillement, la consternation, l'enthousiasme, la foi, le doute, la gloire, le calme, tout cela et plus encore. La musique nous le donne et nous le reprend au gré de son génie et selon toute la portée du nôtre. La musique, ça dit ce qu'on pense, ça montre comme avec les yeux, ça raconte comme avec les mots, ça aime comme avec le cœur, ça vit, ça existe.
Euphonia, les écrivains français romantiques et la musique, par Rémy Stricker. Aujourd'hui, Georges Sand, avec la participation de Jeanne-Martine Vacher. Texte lu en direct par Edith Gedge. Équipe de réalisation, Christiane Jonca, Marie-Noëlle Sepieter, Gérard Brodin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 mai 1988. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.